Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir.
J'espère bien.
Et oui, vous êtes en pleine forme.
Oui, oui, toujours, toujours, toujours. Voilà, la vie est belle.
Ouais,
il faut rester positif, c'est important pour garder la santé, il faut être positif.
C'est le genre de médecin qu'on aime bien.
Même
parce que quand on est patient du docteur Jacques Bassier, j'imagine déjà le fait de le voir, d'écouter sa voix un peu tranquille, ça nous apaise. Déjà, rien que rentrer dans son cabinet, on va mieux. Je suis sûr qu'on vous l'a déjà dit.
On me le dit régulièrement, mais je ne me force pas, je souris aux gens et je les accueille avec bienveillance. Donc voilà, je trouve tout à fait normal quand les gens viennent chez un thérapeute, quel qu'il soit, ils doivent être accueillis avec bienveillance et avec au moins un sourire.
Oh,
donc, je trouve ça normal, voilà. Et je sais, je suis un idéaliste et un utopique.
Et là, tous les auditeurs qui vous écoutent sourient en disant ça, effectivement, on en rêve. On en rêve tous et ça arrive de temps en temps avec des médecins comme vous et il y en a d'autres évidemment, mais parfois, bon, ça se passe pas tout à fait comme ça. On va parler, alors on continue d'ailleurs ce cycle féminin et c'est peut-être d'ailleurs la fin de ce grand chapitre, chapitre qui vous a vu aborder le syndrome prémenstruel, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, la périménopause et aujourd'hui, forcément, on va parler de la ménopause. Alors, plein de sujets, plein de choses à dire évidemment sur la ménopause avec en fin d'émission l'approche en physionutrition, comment accompagner cette période le plus naturellement possible avec des actifs d'intérêt, on verra ça tout à l'heure, sans revenir peut-être aussi sur ce qu'est exactement la ménopause, docteur.
Alors, la ménopause, c'est l'arrêt du cycle ovarien, c'est-à-dire des sécrétions ovariennes qui vont faire que le niveau d'œstrogène et de progestérone va chuter à tel point qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de cycle. Or, en médecine, on dit qu'il faut 9 mois à 12 mois après l'arrêt des règles pour parler véritablement de ménopause. On avait vu la dernière fois la périménopause qui va jusqu'à un an après l'arrêt des règles. Mais la vraie ménopause, on devrait dire que c'est 9, 10 mois, 12 mois, j'ai plus de règles, mais c'est surtout après, donc c'est les mois qui vont s'écouler derrière, où on parlera de ménopause véritablement. Parce qu'il peut y avoir des fois des surprises, il y a des femmes qui ont 6 mois d'arrêt de règles, et hop, il y a encore des petits sauts de règles pendant un ou deux mois, donc c'est pas une vraie ménopause. La ménopause, c'est l'arrêt de la production des hormones par les ovaires, et donc de manière chronique, de manière constante, et donc là, il y a la chute de ces hormones-là, et donc du coup, la conséquence, c'est les règles qui ne sont plus présentes, bien sûr. Ça, c'est la ménopause.
Bien, merci docteur. On va, avant d'aller plus loin, aborder un autre sujet tout aussi important. Peut-être même beaucoup plus important, voyez-vous. Il s'agit du Nutritalk Gala. Ouais, vous n'allez pas m'en parler. Le Nutritalk Gala, vous y serez, c'est sans transition. On en reparlera tout à l'heure, je le sais. On va marquer une petite pause là, même si c'était pour poser l'introduction de ce sujet. On va parler du Nutritalk Gala. Ça me vient comme ça parce que je viens de recevoir un message, docteur, en me disant, mais parlez du Nutritalk Gala. Donc, je m'exécute, je fais, je suis au taquet. On en parle juste après. On va revenir évidemment sur la ménopause, sur les symptômes, parce qu'ils sont aussi multiples et variés, pour bien les reconnaître, savoir si c'est la ménopause, si c'est pas ça, si on est totalement autre chose, et puis après combien de temps ça dure aussi. On revient, et puis surtout dernière partie, avec, je vous l'ai dit, les ingrédients d'intérêt, les actifs d'intérêt pour accompagner cette période. C'est juste après ceci.
Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Ah, je suis arrivé en retard. J'ai ressorti l'harmonica pour accompagner ce générique exceptionnel du docteur Jacques Bassier pour Objectif Physionutrition. On parle de la ménopause avec lui aujourd'hui. Vous êtes revenu sur ce qu'était la ménopause rapidement, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que l'on connaît bien, qu'on aborde régulièrement. Avant de vous parler des symptômes, savoir combien de temps ça dure, avant de parler de ce que l'on peut faire en physionutrition, juste vous rappeler que le docteur Jacques Bassier sera avec nous le 7 juin pour cet événement, le Nutritalk Gala, qui se déroule au Sheraton de Nice. Le 7 juin, je peux vous dire que ça va être quelque chose de très quali. Quali parce qu'il y a des tables rondes déjà. Tables rondes sur le burn-in, le burn-out, l'anxiété, la dépression, sur la longévité, sur la vitalité, sur la sexualité, sur l'oncologie et la santé émotionnelle avec l'approche aussi en nutraceutique. Donc beaucoup de sujets d'intérêt animés par des experts et des gens qui en tout cas sont passionnés par ce qu'ils font. Commencer par vous, docteur Jacques Bessier, mais pas que docteur Véronique Mondin, docteur Jean-Paul Curté, il y aura le docteur Jean-Luc Musset. Je veux pas tous les citer parce que je vais en louper, mais je les embrasse. Rendez-vous sur le site nutriradio.fr. Il y aura le docteur Vincent Renaud aussi, Véronique Lies, Marion Kaplan. Enfin bref, je vous donne rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie événements pour vous renseigner et surtout participer à cet événement puisqu'il sera suivi d'une soirée de gala, un dîner très gastronomique, sympa et puis des animations, vous allez voir, on ne va pas s'ennuyer ensemble le 7 juin. On continue cette émission sur la ménopause avec maintenant les symptômes et puis combien de temps ils durent parce que ça varie aussi ça en fonction des femmes.
Tout à fait, chaque femme est unique encore une fois. Donc, il y a une altération de la qualité de vie d'environ 60% des femmes, dit-on. C'est-à-dire que, à partir du moment où ces ovaires commencent à devenir un petit peu feignantes et à arrêter de fonctionner, 60% des femmes vont être gênées par les symptômes occasionnés par la chute des hormones. Il y a 40% qui présentent aucun ou peu de symptômes, qui disent, waouh, ça se passe comme sur des roulettes. Donc, principalement, il va y avoir dans 60-70% des cas, en tout cas des plaintes, ce qu'on appelle des troubles vasomoteurs. On en a parlé, c'est-à-dire, c'est les bouffées de chaleur qu'on voyait déjà en préménopause, au début de la, avant qu'arrive l'arrêt des règles, la dernière phase de préménopause, il y a déjà des bouffées de chaleur possibles. Mais là, il y a des bouffées de chaleur chez de nombreuses femmes, c'est ce qui est mis en avant bien souvent, avec des troubles fonctionnels sur lesquels je vais revenir, d'autres troubles autres que les bouffées de chaleur, et des petites choses aussi psychologiquement qui ne sont pas toujours bien vécues. Voilà, ça c'est vraiment ce qui va se passer dans le début des symptômes de la ménopause, la première, deuxième année, troisième année. Alors, les symptômes dans ces deux, trois premières années de ménopause, au-delà de la bouffée de chaleur, qui sont pour les raisons dont on avait parlé la fois d'avant, c'est-à-dire c'est ce couple noradrénaline-tryptophane qui est dérégulé parce qu'il n'y a plus d'œstrogène, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gènes un peu, on va dire, au niveau du cœur, un peu thoracique, avec des palpitations, une sensation d'oppression qui peuvent être présentes. Certaines femmes décrivent ça. Alors, il faut faire vraiment très attention parce que les femmes, vous nous embêtez un petit peu pour tout ce qui est cardiovasculaire, parce que des symptômes d'infarctus du myocarde, par exemple, ou d'angine de poitrine s'expriment différemment souvent chez les femmes, et donc c'est pas la douleur thoracique, l'oppression, la douleur dans le bras droit classique de l'homme. Donc il faut faire attention, il faut qu'on soit vigilant, nous, médecins ou thérapeutes, ou tout ce qui est thoracique, attention quand même, attention, il y a des femmes qui font des infarctus, même si à ces âges-là, c'est moins fréquent que l'homme. Il y a des problèmes de sommeil dans ces moments, ces deux, trois premières années de la vie, souvent des difficultés d'endormissement, des difficultés en réveil matinal de moins bonne qualité, voilà, on n'est pas bien, on est fatigué. Une humeur dépressive, triste, au bord des larmes, manque d'énergie, des sautes d'humeur, ça c'est souvent aussi très mis en avant, c'est des phases de fragilité, une irritabilité, donc on prend tout à cran, on n'a plus d'airbag de sécurité, une anxiété aussi, cette peur par anticipation, l'anxiété qui croît dans ces moments-là, on voit que l'œstrogène et la progestérone étaient apaisants, et bien là, il n'y a plus d'apaisement, il y a un petit orage qui est au-dessus de nos têtes. Ces problèmes sexuels aussi sont présents comme un désir qui diminue un petit peu, une satisfaction sexuelle qui est moins grande, des problèmes urinaires aussi, avec des besoins croissants d'uriner, donc des levées nocturnes, des nictiuries plus fréquentes qui font que, bien sûr, si je me lève et que je ne me rendors pas derrière, ben, je suis fatigué dans la journée. Et déjà, dans les deux, trois premières années de la ménopause, il peut y avoir des sensations de sécheresse vaginale, de brûlure au niveau vaginal et de difficultés lors des rapports sexuels, de dyspareunie. Et dernière chose, des plaintes aussi qu'on peut avoir dans ces deux, trois premières années de ménopause au-delà de la bouffée de chaleur, c'est des douleurs articulaires, des douleurs un petit peu des gènes au niveau un inconfort articulaire du matin, comme si on avait de l'arthrose, alors que les radios ne montrent pas ça. Alors, pour les médecins, il y a des tableaux, il y a des échelles, notamment un truc qu'on appelle la Menopause Rating Scale, c'est un truc un petit peu de référence où on prend une liste de symptômes qu'on code de 0 à 4 et ça va de 0 quand il n'y a aucun symptôme à 44 quand vous avez beaucoup, tous les symptômes qui sont évalués et ça permet donc de connaître un petit peu l'intensité des symptômes de la ménopause et de mieux prendre en charge. Après, quand on va dépasser ces 2-3 années, là, il peut y avoir des choses plus embêtantes encore, c'est 30-40% des femmes qui vont avoir des atrophies de la muqueuse vaginale, des altérations de la peau, des fanères dans les ongles et cheveux, des troubles urinaires un peu plus importants encore. Et si on continue plus loin dans le temps, certaines femmes, environ 30% des femmes, vont faire de l'ostéoporose avec vraiment une raison hormonale, parce qu'on sait que les oestrogènes stimulent la fabrication de l'os et diminuent la perte de l'os, les cellules, les ostéoclastes et les ostéoblastes. Donc les ostéoclastes sont très actifs et donc détruisent, grignotent l'os, et là, ça va nourrir l'ostéoporose et ça va doubler le risque cardiovasculaire d'athérosclérose chez les femmes ou de 10 ans, par exemple. Donc oui, c'est pas anodin, il y a des symptômes du moment, bouffée de chaleur et tout ce que je vous ai cité, et ensuite dans le temps, il y a des problèmes cutanés, des problèmes de muqueuse vaginale par exemple, de l'os, le cœur qui vont petit à petit ne pas apprécier cette chute hormonale et du coup s'exprimer de diverses manières.
On marque une dernière pause, docteur Jacques Bessier. Merci pour ces précisions et on se retrouve juste après ceci.
Objectif physionutrition. Jacques Bessier sur Nutri Radio.
Et on parle de Jacques Bessier.
Oh là 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 là, et sa ménopause.
Et sa ménopause. Alors comment vous la gérez ? Alors, on parle avec le docteur Jacques Bessier de ménopause aujourd'hui, dernière partie. On remercie notre partenaire, le laboratoire TerraScience, pour ces émissions. Voilà, c'est important de remercier nos partenaires. Docteur, comment vous approchez-vous justement la ménopause en physionutrition ? Quelle est votre approche ? On a beaucoup d'auditrices et donc j'imagine qu'elles sont curieuses de savoir ce que vous pouvez leur proposer.
Je suis très partisan d'un traitement hormonal substitutif quand on peut le faire. C'est-à-dire que on aura probablement l'occasion, j'aimerais bien qu'on fasse une émission là-dessus, sur la prise en charge de la ménopause, sur la durée, pour le bien vieillir, donc au-delà des premières années et des symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire après pour essayer d'améliorer un vieillissement. Ben, le vieillissement, bien souvent, s'il y a des hormones, ben, le vieillissement est un peu mieux. C'est une des caractéristiques du vieillissement, c'est la chute hormonale. Donc le remplacement hormonal peut être une solution pour le mieux vieillir. Donc ça, j'aime être clair de ce côté-là. Quand on peut, il n'y a rien de plus fort que les hormones en remplacement pour pouvoir minimiser les symptômes et aussi améliorer le vieillissement probablement au-delà du cancer du sein. Ça, on en reparlera une autre fois. Si on parle de physionutrition, j'utilise pas en physionutrition d'hormones œstrogènes, progestérone, donc il y a des plantes, il y a des phyto-œstrogènes ou des phyto-progestatifs qui commencent à voir le jour, qui peuvent être utilisés pour remplacer ces hormones-là. On va stimuler un petit peu certaines cellules avec de l'œstrogène phyto-œstrogène, comme encore une fois ben, le kudzu, le houblon, j'en avais parlé pour la préménopause, tout ce qui est kudzu, houblon, soja, et moi j'aime bien le houblon. Alors il faut savoir que le houblon contient des ingrédients qui ont les plus forts pouvoirs œstrogéniques, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins fort que l'œstrogène vrai, mais c'est le plus fort de tous les phytoestrogènes. Donc c'est celui-là que j'utilise principalement quand je veux lutter contre cette chute hormonale et stimuler un petit peu les récepteurs hormonaux à l'œstrogène. C'est plutôt le houblon que je vais utiliser. Mais maintenant, on a des alternatives, comme je vous disais, le kudzu avec le soja, par exemple. Sinon, il faut remplacer aussi la progestérone. Alors la progestérone, jusqu'à présent, on utilisait beaucoup, comme dans le syndrome prémenstruel, l'alchimie et le gatillier. Mais les nouvelles études nous donnent des vrais phytoprogestatifs, des vraies molécules naturelles qui ressemblent à la progestérone de manière structurelle. Donc du coup, c'est ce que demain on va utiliser de plus en plus. Donc là, il y a le camphéréol, il y a des dérivés de la naringénine par exemple. Il y a des molécules dont on n'a pas, qu'on connaît en physionutrition, qu'on utilise dans d'autres circonstances comme l'anti-inflammation par exemple, mais qui ont des vraies analogies de structure avec la progestérone et qui seront intéressants à utiliser. Et on va faire un assemblage des deux, des phytoestrogènes et des phytoprogestatifs pour remplacer l'œstrogène ou la progestérone non sécrétée par les ovaires et essayer d'amender les symptômes que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc voilà, globalement, ce qu'on va faire. Et on a aussi, sur les bouffées de chaleur, je vous en avais parlé, des extraits de pollen qui peuvent être intéressants, qui ne sont pas du tout œstrogéniques, mais qui ne marchent pas dans toutes les situations. C'est vrai que certaines femmes vont, sur la bouffée de chaleur, être améliorées, mais il vaut mieux essayer d'améliorer globalement aussi la qualité de peau, la qualité, la sécheresse vaginale. Et là, c'est plus les phytoœstrogènes et les phytoprogestatifs qui joueront. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est un moment de la vie où il y a une petite vitamine dont on ne parle pas trop avant, mais qui est importante après la ménopause, c'est la K2. Je pense que vous avez dû faire des émissions là-dessus. Donc, on fait des associations de D3-K2, parce que comme l'ostéoporose est plus importante dans ces moments-là et les problèmes cardiovasculaires, ben la vitamine D3 ou la vitamine K2 ont des intérêts de protecteurs sur l'os et sur le cardiovasculaire, les vaisseaux notamment, les calcifications, les rigidités vasculaires. Donc, il est très important, plutôt que de prendre que de la D3, dans ces moments-là, d'associer de la K2 avec la D3 et de faire une supplémentation quotidienne si on peut. Donc voilà, on a les phytoestrogènes, les phytoprogestatifs, et pour lutter contre certaines situations de la ménopause dans le temps, la D3-K2 par exemple. Et avec ça, on a de quoi naviguer pour essayer, en fonction, on va jouer sur les doses, sur les quantités de phytoactifs, et on va essayer de trouver les bonnes associations pour les femmes qui, par exemple, veulent quelque chose pour les aider, mais ne veulent pas prendre d'hormones de traitement hormonaux substitutifs vrais. Ben on peut leur proposer ce genre de prise en charge pour quand même les accompagner dans ce moment de vie.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas justement, pour accompagner les femmes dans ce moment de vie, un accompagnement aussi psychologique ? Il n'y a pas des choses à faire au niveau, peut-être, je ne sais pas, de neurotransmetteur pour
renforcer ça va avec, parce que si on joue sur le côté hormonal, on va jouer sur le côté neurotransmetteur aussi. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une interaction, il y a une communication entre ces messagers hormonaux, œstrogènes, progestérone, et d'autres messagers que sont les neurotransmetteurs. Donc, quand vous allez stimuler la progestérone, vous allez aussi stimuler les neurotransmetteurs GABA, par exemple, le côté donc inhibiteur, le côté apaisant, le côté GABAergique, parce que la progestérone se transforme et métabolisée dans différentes molécules, dont une, entre autres, qui s'appelle l'allopregnanolone, et qui est un agoniste GABA, c'est-à-dire cette molécule progestative va stimuler les neurones GABAergiques et donc avoir le côté GABA, le côté apaisant qui lutte contre l'anxiété, contre l'épilepsie aussi par exemple. Donc vous voyez, c'est déjà par la modulation hormonale, on a un impact sur la neurotransmission quand on sait comment ça marche et quand on sait sur quel bouton appuyer. Et au-delà de ça, bien sûr, on peut adjoindre des traitements spécifiques de la neurotransmission ou des stimulants d'immunité ou de l'anti-inflammation qui vont aussi augmenter l'effet, bien sûr. Quand une femme exprime des problèmes psychologiques majeurs dans ce moment-là et qu'on pense qu'il y a vraiment un impact, un avant, un après par rapport à avant la ménopause, tout allait bien, après ça va plus du tout, ben on peut aussi Griffonia, des plantes comme Mucuna pour la dopamine. Enfin voilà, on va jouer sur l'arsenal aussi de physionutrition, sur le côté de neurotransmission.
Très bien. Et juste pour revenir aussi sur les hormones, parce que vous avez dit que vous, en premier abord, c'est après votre approche en priorité.
Ouais. Intellectuellement.
Est-ce que ça n'augmente pas le risque justement de certaines maladies, peut-être les accidents cardiovasculaires ou d'autres choses encore, le cancer du sein aussi ?
C'est la dose qui compte. Donc, il faut savoir que quand on met des hormones sous forme de pression, on a des gels, une pression de sans citer de marque, mais voilà, il y a des œstrogènes qui sont utilisés pour le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Et ben, c'est beaucoup moins que ce que donnaient les ovaires. Les ovaires fabriquaient beaucoup plus d'œstrogènes que ce qu'on donne quotidiennement au niveau d'un traitement la plupart du temps. Ce qu'on veut, c'est que c'est juste la dose que l'on va donner amende les symptômes qui sont dus au manque et un effet protecteur sur le long terme, même au niveau cardiovasculaire. Aujourd'hui, on sait que quand la dose est la bonne dose pour la femme, on minimise sur le long terme les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de diabète, on améliore la sensibilité à l'insuline, on est neuroprotecteur, on diminue les maladies neurodégénératives par cette neurogénèse et cette neuroprotection qui est faite par les hormones au niveau cérébral. Donc, on a beaucoup de peur par rapport à ça. Les hormones font peur. Moi, je suis un vieux médecin et j'ai connu les hormones, on n'en parlait pas quand j'étais jeune médecin, on en parlait voilà, de manière pathologique. Ce dont on parlait, je me rappelle que c'était à l'époque, j'ai commencé, c'était l'emprise de la drogue, c'était l'opium, donc c'était les shoots et c'était les gens que ensuite est arrivé le sida, mais il y avait beaucoup de drogués qui se piquaient à l'opium. Comme jeune médecin, je me rappelle, on avait beaucoup de peur à manipuler tout ce qui était opioïde. La morphine faisait peur, on l'a manipulé pour calmer les douleurs. On avait du mal intellectuellement à donner de la morphine, on avait peur de faire des drogués derrière, parce qu'on avait une méconnaissance et nos peurs nous font faire de l'évitement. L'œstrogène, enfin, les hormones, c'est pareil. Nos peurs vis-à-vis des hormones nous font faire de l'évitement, et comme la morphine, qui est vraiment merveilleuse pour calmer les douleurs, certains types de douleurs, aujourd'hui, on y va manu largum pour calmer des coliques néphrétiques, par exemple, et heureusement qu'il y a ça, c'est une souffrance incroyable, sinon, ben c'est pareil pour les hormones. Les hormones, par peur, on évite de faire des choses et parce que voilà, on ne comprend pas, et quand on ne comprend pas, on évite, comme souvent. C'est très anxiogène et on fait de l'évitement comme devant toute anxiété, tout sujet d'anxiété, bien souvent. Donc, si on connaissait mieux le fonctionnement, si on comprenait mieux qu'est-ce qu'il faut faire, les doses minimales, si on surveillait mieux, nos peurs s'en vont et je pense qu'on aiderait un peu mieux certaines femmes. Maintenant, la physionutrition peut suffire aussi, bien sûr, mais c'est toujours moins fort que les vrais œstrogènes et que la vraie progestérone. Donc, quand il y a des fois, mon petit tout blanc et mes progestatifs naturels ne suffisent pas pour calmer les bouffées de chaleur. Donc, du coup, il faut que je passe à autre chose. Voilà.
Très bien.
Du coup, c'est complexe. C'est pour ça que voilà, il faut pas voir la physionutrition ou la nutrition ou la phyto, c'est ce qu'il y a de mieux. L'allopathie, c'est le diable. Non, il faut savoir utiliser au bon moment ce qui est absolument la meilleure des solutions pour la problématique qu'on a à résoudre. C'est tout.
Une approche intégrative de la santé comme on les aime. Merci beaucoup, docteur Jacques Bassier. Retrouver. Oh là là, jeune homme. Ouais, j'aime bien qu'on appelle jeune homme. Ça fait depuis 1936 qu'on m'a pu appeler jeune homme. Donc ça date. Merci à vous en tous les cas.
Émission. Oui, j'espère que tu me diras au revoir jeune homme aussi. C'est pour ça. J'essaie
oui,
de pas provoquer.
Non, je vais vous dire. Salut Mino. Est-ce que vous êtes de Marseille?
Ah ben pour Marseillais, c'est sympathique Mino, tiens.
Eh oui, je sais. Bon, merci beaucoup en tous les cas. Une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche. Au revoir docteur.
Au revoir Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Objectif physio nutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.